A beaucoup d'humour. Cette prédication, je devais la porter il y a 4 ou 5 semaines. J'ai volontiers laissé ma place à André Tabayou, qui était là ce week-end. Je ne savais pas ce que Daniel allait nous apporter dimanche dernier. Voilà qu'il nous a parlé de l'adultère. Cette tromperie vis-à-vis du conjoint, cette tromperie vis-à-vis des autres, cette tromperie vis-à-vis de Dieu. Et voilà que le sujet que j'avais préparé, c'est un sujet qui est un aspect important dans notre vie, du moins pour la majorité d'entre nous. C'est un sujet délicat à aborder, auquel nous sommes tous confrontés, d'une manière ou d'une autre, de près ou de loin. Un sujet délicat parce qu'il est chargé sur le plan émotionnel, par toutes sortes d'expériences positives ou négatives, je vais dire malheureusement. Cet aspect important de notre vie, dont nous allons voir ce que la Bible en dit, il s'agit du mariage. Chaque fois qu'on se pose une question, je pense que nous devons avoir le réflexe de regarder ce que la parole du Seigneur nous en dit. Je voudrais simplement commencer par la lecture de 3 versets dans le psaume 119. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En observant ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre sur mon cœur ce que tu as dit pour ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu Seigneur, apprends-moi tes prescriptions. Paroles, commandements, prescriptions. Le psaume 119, dans quasiment tous ses versets, reprend ce thème de la parole de Dieu. Alors, en préliminaire, je vais commencer par prendre quelques précautions oratoires avant de lire le texte que j'ai choisi et de le méditer avec vous. Tout d'abord, je voudrais bien affirmer clairement que ma prédication ne concerne personne en particulier dans cette salle, parce qu'il n'est ni sage, ni même permis pour un prédicateur d'utiliser le micro de la chair pour aborder des problèmes spécifiques qui, eux, se règlent dans le cadre d'un entretien individuel avec un pasteur ou un ancien. L'idée d'un message sur le mariage me trottait dans la tête depuis longtemps, au moins 2 ans. Et ce sont des lectures, des études, et une prédication que j'ai entendue, je crois qu'il y a maintenant bien 1 an, c'était à Lyon. Tout ça m'a aidé à préparer donc ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Et vous avez certainement remarqué que notre société nous interpelle en permanence à ce sujet et nous pose de plus en plus de problèmes auxquels aussi il nous faut faire face. Deuxième chose que je tiens à dire, c'est que je ne veux en aucune manière suggérer que le mariage est la seule façon de vivre une vie humaine stable, équilibrée et heureuse. Je m'adresse ici aux célibataires, bien sûr. Nous avons tous besoin de relations de qualité pour être épanouis. Mais j'ai remarqué que beaucoup de célibataires ont un tissu relationnel à faire pâlir d'envie certains couples mariés. La seule différence réside dans le fait qu'au lieu d'avoir un seul interlocuteur privilégié, une seule personne. Ils répartissent leurs relations sur plusieurs individus en fonction des disponibilités, des centres d'intérêt des uns et des autres. Avec l'un, ils vont organiser des activités sportives. Avec un autre, ils vont s'offrir des soirées détente. Avec d'autres, ils partageront un projet professionnel intéressant. Avec d'autres, ils militeront pour une cause associative, quelle qu'elle soit. Donc, le mariage n'est pas le seul lieu d'accomplissement personnel que l'on peut trouver, bien évidemment. Alors, le texte de base, nous allons lire dans Éphésiens 5, c'est ce fameux texte qui invite les maris à aimer leur femme comme Christ, qui invite la femme à se soumettre à son mari. Alors, peut-être certains maris seront déçus parce que je ne vais pas beaucoup parler de cette soumission. Je ne dis pas qu'il n'y a pas là une information importante à donner, mais il y a des choses encore plus importantes à discuter concernant le thème du mariage. Alors nous allons voir ce que dit la Bible du deuxième plus beau jour de notre vie. Et quand je dis deuxième, ce n'est pas pour faire de la pub pour une voiture quelconque, mais c'est bien parce que je crois que le premier plus beau jour de notre vie, c'est celui où nous nous donnons à notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous nous convertissons, quand nous goûtons à la présence du Saint-Esprit, même si tout ne se fait pas sur un jour ponctuel, cela peut se faire de façon très progressive. Donc, pour savoir ce que la Bible dit sur ce deuxième plus beau jour de notre vie, je vous propose de lire Éphésiens 5, versets 18 à 32. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré pour lui-même, pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et que les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Alors ce texte, il commence de façon assez bizarre. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. On va retomber tout à l'heure sur notre sujet. Un très court historique d'abord. Avant de méditer certains versets de ce passage, je voudrais faire un cours historique du mariage dans notre société occidentale récente. Il y a un siècle, ou guère plus d'un siècle, le mariage d'amour n'existait pas. Alors que l'individualisme n'avait pas encore pris autant d'importance qu'aujourd'hui, quand l'Église avait encore un peu d'influence, on avait du mariage une conception plutôt utilitaire, orientée vers le bien commun. Le mariage était jugé bénéfique pour la société tout entière. Il donnait un cadre légal à la procréation en accordant une protection à l'épouse et aux enfants. Il permettait de maîtriser les pulsions des uns et des autres, notamment des hommes, au profit de la relation elle-même. L'objectif premier était le bien de la société dans son ensemble. S'intermariage était heureux, en dépit de la pression de la société, en dépit de cette orientation générale, d'autres, beaucoup moins. Mais personne ne remettait profondément en cause ces grands principes. Pour ceux qui sont férus d'histoire, rappelez-vous que les mariages étaient souvent des alliances entre familles, faites par les parents, pour souvent agrandir son domaine, agrandir son territoire. Les enfants n'avaient pas voix au chapitre. Alors aujourd'hui, avec le siècle des Lumières et l'émergence de l'individualisme, cette vision du mariage est devenue de plus en plus intolérable, étouffante, liberticide. Et nous sommes passés dans un autre extrême où tout est centré sur l'individu lui seul. Aujourd'hui, le premier objectif des futurs mariés, c'est de se sentir émotionnellement et sexuellement satisfait dans leur relation conjugale. Ils souhaitent que leur conjoint soit drôle, intellectuellement stimulant, sexuellement attirant. Ils souhaitent que leur conjoint partage de nombreux centres d'intérêt, oui, mais surtout qu'ils les laissent être eux-mêmes et qu'ils soient si possible disponibles pour les soutenir dans leur projet d'épanouissement personnel, dans leur réalisation d'eux-mêmes, dans la réussite de leur projet, de leur carrière professionnelle. L'idée du renoncement, l'idée d'abnégation a largement disparu de leur projet d'union. C'est la rencontre de deux égaux qui font alliance pour que leur union soit du type gagnant-gagnant, comme l'expliquent les sociologues. Voilà une présentation rapide de ce que les hommes et les femmes attendent du conjoint parfait, idéal, attentionné. Alors, avec de pareilles attentes, la principale difficulté, c'est de trouver la bonne personne. De trouver l'âme sœur qui va être en plus en mesure de jouer ce rôle pour nous, sans que ce soit trop difficile pour elle. Et tant que cette personne ne satisfait pas à nos critères assez exigeants, on présuppose que ce n'est tout simplement pas l'âme sœur pour nous. Alors, on change. On compare. On choisit. On évalue. On teste. Et tant qu'on est jeune et beau, on règle le détecteur à défaut à un niveau assez élevé. Plus tard, en vieillissant, on le baisse un petit peu quand même. On en est presque dans une sorte de loi du marché, à la recherche d'un contrat qui ressemble un peu, en forçant le trait, à un contrat commercial. Car on est bien entendu ouvert aux offres de la concurrence. On regarde ce que l'autre peut nous offrir sur le plan émotionnel et à quel prix. Voilà, il y a toujours un petit prix à payer. Il va falloir rendre des choses en retour. Alors l'important, c'est de trouver si possible une personne avec le moins de problèmes possible, le moins de blessures possible, donc le moins de soucis personnels à gérer par la suite, parce qu'évidemment, les blessures affectives créent ensuite des perturbations dans la vie relationnelle. Les jeunes diraient « je cherche une âme sœur qui aura le moins de casseroles à traîner ». Ce genre d'union n'est heureuse que dans des conditions très exceptionnelles et pour une durée très limitée. Car en réalité, nous sommes tous sans exception abîmés par le péché. Nous sommes tous plus ou moins égocentriques. Nous sommes tous blessés à un niveau ou à un autre. Et par nature, notre égocentrisme nous rend insensibles aux besoins de l'autre. Mais il nous rend aussi hypersensibles à nos propres besoins et à tout ce que l'autre devrait faire pour nous. Alors au début, cela peut fonctionner, quelque temps, quand on est un peu amoureux, lorsque chacun projette sur l'autre l'image du conjoint idéal, du conjoint rêvé. Tant qu'on ne le connaît pas trop, tout ça se mélange avec le frisson, l'excitation de la nouveauté, le plaisir de susciter du désir chez l'autre. Mais au bout d'un certain temps, on apprend à mieux se connaître et inévitablement, les défauts apparaissent. Et le pourcentage important de divorces dans notre société montre que cette conception de l'union entre un homme et une femme, centrée sur son épanouissement personnel, est difficile à vivre sur le long terme. Ce n'est pas seulement un effet de la liberté économique des femmes qui aujourd'hui travaillent et sont devenues plus indépendantes, cela joue, comme le disent les sociologues, mais c'est aussi un méfait de notre conception du mariage qui a évolué et qui s'est centrée sur la satisfaction de soi-même. Une union heureuse dans la durée, sans renoncement, sans un minimum de don de soi et de sacrifice envers son conjoint, ça ne fonctionne pas. Alors, je ne suis pas en train de dire que le choix de votre conjoint est sans importance, que vous devriez vous marier avec la personne qui vous plaît le moins, sûrement pas. Mais simplement, il y a des personnes avec qui il ne faut pas se marier, car elles ne sont pas faites pour vous. J'essaie simplement de mettre en garde contre l'esprit de notre société, qui par son individualisme par son égoïsme et sous un discours séducteur glorifiant l'idée de liberté totale, pollue, déforme, détruit les chances de réussite d'un mariage. Alors, que dit le texte de la Bible que nous avons lu ensemble au début ? Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femme, soumettez-vous à votre mari. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église, comme votre propre corps. Il y a une idée sous-jacente à ces versets, qui est ensuite appliquée par Paul au mariage, avec des spécificités propres à l'homme et à la femme. C'est l'idée du service mutuel. La femme sert son mari, le mari sert sa femme. Et même si un rôle d'autorité est effectivement confié à l'homme, l'homme est également le frère en Christ de sa femme et aussi son serviteur. Il doit prendre soin d'elle, la nourrir, lui apporter tout ce dont elle a besoin, lui donner une sécurité affective. De même, la femme est la sœur en Christ de son mari, appelée à le servir et à le soutenir dans leur mission commune. Dieu les a créés, Ish et Isha, c'est-à-dire qu'il a créé des vis-à-vis capables de communiquer d'égal à égal. Il n'y en a pas un qui soit créé supérieur à l'autre. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alors cette expression « crainte de Christ », elle n'est pas là pour nous faire peur. Elle est souvent bien mal comprise. Ce que Paul veut nous dire, c'est « soumettez-vous les uns aux autres dans l'admiration émerveillée de l'amour de Christ pour nous ». Ce n'est pas notre ego qui doit diriger, mais c'est le principe de service, y compris dans le mariage, qui est pourtant bien souvent le lieu où on se dit que nos désirs sont autorisés, où on se lâche un peu. Eh bien, dans le mariage, c'est encore le principe de service qui doit diriger notre vie amoureuse, notre vie relationnelle, dans le cas d'un couple marié. Le modèle de relation avec Dieu, qui est prôné par Paul, remercie constamment Dieu le Père pour tout, au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'esprit de reconnaissance. Je reconnais là la petite parenthèse que tu as faite dimanche dernier avec le rabbin et ses élèves. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Paul part du principe que ses lecteurs ont déjà réglé les grandes questions de leur existence, qu'ils savent déjà où ils peuvent puiser la force d'aimer gratuitement, sans rien attendre en retour. Cette force, ce n'est pas notre conjoint qui doit nous la donner. Elle ne se trouve pas non plus dans nos efforts seulement, ou dans nos sentiments d'estime, dans notre réussite personnelle. Cette force, elle se trouve en Dieu et dans le Saint-Esprit. C'est aussi dans l'action de grâce, dans la louange adressée à Dieu le Père, que nous pouvons la renouveler. C'est dans la crainte de Christ, qui est une façon de parler de l'émerveillement de l'amour de Christ pour nous, que nous pouvons aussi puiser cette force d'aimer les autres. Ce n'est pas à notre conjoint de remplir notre réservoir spirituel. Le mariage nous invite à être généreux en amour désintéressé. Et on ne peut pas être généreux si on n'a pas un compte en banque bien garni. Alors bien sûr, je ne parle pas d'argent, je parle d'amour. C'est en puisant dans l'amour que Dieu nous donne et dans l'assurance qu'il nous aime tel que nous sommes que nous pouvons remplir notre compte en banque en amour frais, sonnant et trébuchant pour pouvoir en redonner un peu à notre conjoint. En résumé, l'amour tel qu'il nous est décrit dans les livres, dans les films, dans les romans, valorise trop souvent un amour centré sur soi-même, totalement incapable de nous faire vivre une union stable et heureuse. Ce n'est qu'en adoptant une attitude de serviteur et ce n'est qu'en s'engageant dans une alliance envers son conjoint que nous pouvons vraiment nous donner une chance de vivre dans la durée le bonheur auquel notre cœur aspire. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Dans ce texte relatif au mariage, Paul renvoie vers le geste accompli par Jésus le soir même de son arrestation, quand il a lavé les pieds de ses disciples, en déclarant qu'il était bien le Maître et le Seigneur. On lit ça dans Jean 13, verset 12. Jésus dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Maître et le Seigneur, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Le lavement des pieds à cette époque, c'était le plus humble des services qu'on pouvait rendre à une autre personne. Et Paul applique ces pensées-là au mariage avec des spécificités. Le mariage biblique, ça n'est pas la satisfaction sans entrave de notre ego, ni le lieu de notre seul épanouissement personnel, mais c'est un engagement. C'est une alliance qui va au-delà de la satisfaction immédiate de nos pulsions naturelles. C'est une alliance qui construit autre chose de plus grand, de moins immédiat, mais de plus fort sur le plan relationnel. Alors excusez-moi par avance si je casse un peu l'image du mariage romantique, mais je pense qu'il faut aussi, sans en briser le côté subjectif, redonner au mariage de bonnes bases et de bonnes valeurs. Le mariage n'est pas que subjectif, c'est un mélange de sentiments, de promesses, d'amour, de devoirs. C'est une alliance par notre engagement, par nos promesses, par nos services désintéressés. C'est ainsi que dans l'alliance dans laquelle les conjoints s'engagent publiquement, en France, c'est devant Monsieur le maire ou son représentant, on se crée un petit sanctuaire de confiance dans un monde d'imprévisibilité. Si on refuse cet aspect du service et du don de soi dans le mariage, on a assez peu de chances de voir son mariage durer, et il vaut mieux alors ne pas se marier, car les sentiments sont fluctuants, par essence. Alors certains vont se dire en eux-mêmes, mais quelle déception ! Si c'est cela le mariage, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'y entrer ? On entend parfois des personnes dire, est-ce qu'il ne vaut pas mieux opter pour l'union libre qui finalement permet d'avoir un accès permanent aux services domestiques et sexuels d'une petite amie, tout en restant indépendant et en continuant la recherche d'une meilleure partenaire si l'occasion se présente ? Voilà, vous doutez bien que je me fais ici l'avocat du diable, que notre Dieu attend davantage de droiture de la part des célibataires de nos églises, jeunes et moins jeunes. Mais j'entends parfois ce type de propos, je suppose que vous aussi, vous l'avez déjà entendu. Alors à cette interrogation, Dieu nous donne une réponse très importante dans le livre des Actes, chapitre 20, verset 35, où Paul cite Jésus, selon la tradition orale qu'il a reçue, parce qu'on ne le trouve pas ailleurs, donc il cite Jésus, par cette maxime que quelqu'un un jour m'a dit, ça c'est la maxime du boxeur. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Oui, il y a un vrai bonheur à donner, mais il n'est pas de même nature que celui qui consiste à prendre ou à recevoir. Jésus dit à peu près la même chose dans Matthieu 16, verset 25, lorsqu'il nous parle de mourir à nous-mêmes, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Alors, je reprends ce verset, je le réapplique à mon sujet, je le formule à ma manière de cette façon. Si vous cherchez votre bonheur bien plus que vous ne cherchez la volonté de Dieu, alors vous n'aurez ni l'un ni l'autre. Mais si par contre vous cherchez la volonté de Dieu, si vous cherchez à servir Dieu et votre conjoint plus que votre bonheur, vous obtiendrez les deux. Vous aurez la bénédiction de Dieu et aussi le bonheur dans vos relations de couple. Notez que c'est bien ce qui se passe le plus souvent dans cette quête de l'âme sœur. Ceux qui cherchent avant tout à satisfaire leur passion, leur épanouissement, vivent souvent des échecs relationnels retentissants. Regardez simplement les stars de cinéma, du show business, les grands sportifs, ils ont pourtant des comptes en banque bien garnis souvent. Mais les pauvres, on a l'impression qu'il ne leur arrive que des malheurs au niveau relationnel. Tandis que ceux qui apprennent à servir leur conjoint, non seulement saisissent mieux la grandeur et la beauté de l'évangile de Jésus-Christ, mais bien souvent goûtent au sentiment de bonheur dans leur mariage. Paul nous parle au verset 32 d'un grand mystère qui concerne l'œuvre de Christ pour l'Église et qui concerne le mariage indirectement, le mariage chrétien. C'est cette capacité de transformation des relations que peut produire le don de soi-même. C'est un mystère. Mais par le don de sa vie, Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Il nous a donné une espérance sans égale. Par le don de soi dans le mariage, on peut goûter aussi un bonheur durable et profond. On ne découvre son propre bonheur qu'après avoir placé celui de son conjoint au-dessus d'une autre. C'est la joie de donner. Et je voudrais vous faire part d'une statistique que j'ai entendue donc il y a à peu près un an, qui est assez peu connue. Sachez que parmi les couples malheureux, et on en connaît tous, il y en a beaucoup qui envisagent à un moment de se séparer. Actuellement, les statistiques nous disent à peu près 1 sur 2. Mais 65% d'entre eux, et je ne parle pas des couples chrétiens, je parle de l'ensemble de ces couples malheureux, 65% d'entre eux redeviennent des couples heureux en l'espace de 5 ans s'ils renoncent à divorcer. Ça, personne ne le dit. Il ne faut pas trop vite désespérer d'une situation de blocage dans un mariage. Souvent, les conjoints chrétiens sont prêts à faire des efforts pour lutter contre leur propre égoïsme et se disent « Bon, d'accord, je le ferai si lui ou elle commence et s'engage à le faire. » Le problème, c'est que la prise de conscience des difficultés n'est pas toujours vécue en même temps, de la même manière par le mari et par la femme. Et si aucun des deux ne se lance le premier, il y a de fortes chances que rien ne bouge. Que se passe-t-il si l'un des deux s'approprie et met en œuvre le verset 21 qui parle de soumission mutuelle et se dit « je veux travailler sur mon égoïsme ». En général, il faut être honnête, il n'y a pas de réaction immédiate. L'autre prend acte, dit « c'est super ». Mais souvent, le temps aidant, votre attitude adoucira votre partenaire. Voyant vos efforts, il lui sera plus facile d'admettre ses torts. Évidemment, il convient de prier pour que l'autre prenne conscience qu'il a aussi une part du chemin à faire. Mais même avec la décision unilatérale d'un seul de vivre en serviteur, les perspectives d'un couple sont déjà bien meilleures, car elles brisent la spirale d'apitoiement sur soi, de colère, de désespoir qui déborde les relations. Alors peut-être me direz-vous, comment trouver la force de vivre cet esprit de serviteur, sans rancune, sans aigreur? On sait bien que ce n'est pas une attitude naturelle. Ben, la réponse, elle est au début du texte que nous avons lu. Vous savez, il commence de façon un peu bizarre. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la recherche de l'intimité avec Dieu. J'ai lu récemment un commentaire de Florent Varac sur ce passage. Il nous dit, ce texte nous demande de ne pas perdre le contrôle de nous-mêmes. L'homme ivre ne sait plus ce qu'il fait. Or, rien ne doit faire perdre à un chrétien la maîtrise de soi. Seul l'esprit doit le diriger par la maîtrise de soi qu'il produit en lui. Cette idée de maîtrise de soi qui se développera en nous si nous nous laissons diriger par l'esprit que Dieu nous a donné, je la retrouve dans Colossiens 3, verset 5, un verset qui prend une connotation toute particulière quand on l'applique au mariage. Faites mourir l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder qui est une idolâtrie. Alors, il y a quelques leçons simples et pratiques à tirer de la méditation de ce texte. La plus évidente, me semble-t-il, c'est qu'un chrétien se marie avec un autre chrétien. s'il veut augmenter ses chances de réussir son mariage. C'est déjà difficile avec deux personnes qui, en théorie, sont disposées à renoncer à leur égoïsme. En théorie, car dans la pratique, ce n'est pas toujours évident. Mais c'est évident, évidemment encore plus difficile lorsque l'un des deux ne partage pas du tout la même vision du mariage, de l'amour et du bonheur. Quand bien même cette personne aurait d'immenses qualités humaines, et je ne remets pas du tout cela en cause, je sais que vous trouverez toujours d'heureuses exceptions à opposer à ce que je viens juste de dire, mais fonder le choix d'un conjoint sur quelques exceptions heureuses, ce n'est pas une démarche très sage à mon point de vue. La deuxième leçon que je veux retirer de ce texte, de cette méditation, c'est qu'il convient de se garder pur avant le mariage, afin d'éviter d'accumuler des blessures relationnelles, vous savez, les fameuses casseroles dont je parlais tout à l'heure, qui seront autant d'obstacles, de fragilités futures pour le vrai, le grand, le beau mariage que Dieu vous réserve. Et là encore, Dieu nous demande cela pour notre bien. Et la dernière leçon, la plus importante que je tire de la méditation de ce texte, c'est que Dieu veut notre bonheur. Bien davantage que nous l'imaginons. Le problème, c'est que nous n'y croyons pas toujours et que parfois nous décidons que notre chemin ne sera pas le sien. Son chemin pour nous n'est pas toujours celui que nous aurions imaginé. Mais lui faire confiance, c'est toujours bénéfique sur le long terme. Car l'essence du cœur de Dieu, c'est le don de soi, c'est l'amour inconditionnel et parfait. C'est vers cela qu'il veut nous conduire. Je prie que Dieu nous donne de vivre le bonheur dans notre vie de couple, et je prie par-dessus tout qu'il nous fasse comprendre la grandeur de l'amour qui se cache derrière cette belle vision du mariage chrétien, qui nous révèle par la même occasion la grandeur de l'évangile de la grâce que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Il n'y a aucune accusation dans tout cela, juste une grâce offerte, une direction qui est donnée. Dieu nous aime malgré nos défauts. C'est cela qui est merveilleux. C'est cela que nous devons apprendre à vivre dans notre vie de couple. Je vous invite à courber vos yeux quelques instants. Seigneur notre Dieu, nous te demandons pardon car bien souvent il y a un grand écart entre ce que nous savons que nous devrions vivre, est-ce que nous vivons réellement, et nous t'en demandons pardon, car nous avons notre part de responsabilité. Seigneur, nous te demandons de nous apprendre à te faire davantage confiance. Nous te demandons de nous apprendre à fonder nos ambitions, nos aspirations sur ta volonté, et seulement la tienne. Seigneur, merci, car je sais que tu veux notre bonheur. Je te demande par-dessus tout de nous aider à le vivre en toi. Sois présent avec chacun d'entre vous. Amen. Alors vous n'en avez pas fini encore avec moi, quelques instants. J'ai acquis la profonde conviction que ce texte s'adresse à chacun d'entre nous. Car ce qu'il nous apprend sur une relation de couple heureuse, nous devons aussi l'appliquer dans nos relations entre frères et sœurs dans l'Église, dans la soumission mutuelle, en toute humilité, avec une réelle et visible considération pour l'autre, qui est aussi un fils ou une fille de Dieu. Et là, les célibataires et les vieux couples sont aussi pleinement concernés. Il y en a pour tout le monde. Trois versets, simplement, Philippiens 2, versets 2 à 4, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ça s'applique au mariage, mais ça s'applique aussi à nos frères et sœurs dans l'Église, et aussi à ceux que Dieu place sur notre route. 1 Pierre, chapitre 2, verset 13. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, les autorités civiles, certes, mais aussi celles dont Dieu a pourvu l'Église. Même livre, chapitre 5, verset 5, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je termine ce passage en remarquant que ce dernier verset fait écho à Galates 6 qui nous rappelle que si Dieu est amour, il est aussi justice. Galates 6, versets 7 et verset 9, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alors, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Alors, tout simplement, un mot d'ordre pour la semaine qui vient. Alors, posez-vous la question, comment je peux être généreux en amour de façon désintéressée avec mon conjoint, avec ma famille, avec les gens que Dieu va placer sur ma route cette semaine, avec mes frères et sœurs de l'Église. Je vous laisse la question.